Bienvenue à toutes et à tous dans votre émission quotidienne Le Forum du Studio Kalangou, l'émission qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Ce jour 13 février 2020 marque la 9e édition de la Journée mondiale de la radio. Cette date du 13 février a été entérinée par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO, le 3 novembre 2011 lors de la 36e conférence. Cette année, l'UNESCO invite les stations de radio à promouvoir la diversité dans les salles de rédaction et dans l'audience. Les trois sous-thèmes de cette 9e édition s'articulent notamment autour du pluralisme dans le paysage radiophonique, de la diversité dans les salles de rédaction, de la diversité éditoriale et la diversité des programmes. Ainsi, pour célébrer cette journée de la radio et tenant compte du contexte national, nous avons choisi de nous pencher ce soir sur le rôle attendu de la radio dans un contexte d'insécurité. Quels sont les défis auxquels fait face la radio dans des contextes marqués par l'insécurité? Comment relever ces défis? Pour répondre à ces questionnements et bien d'autres, nous avons invité Abdrahmane Ousmane, il est ancien président du Conseil supérieur de la communication avec nous. Monsieur Abdrahmane Ousmane, bonsoir.
Bonsoir.
Et Albert Chebou, directeur de la radio alternative Espace Citoyen. Monsieur Albert Chebou, bonsoir.
Bonsoir.
Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je suis Alassane Kouzi Mahamadou pour la présentation de cette émission. Pour commencer, je vous propose un tour de table sur la question suivante. Quelle est l'importance de la radio et quel est son avantage comparatif par rapport aux autres types de médias, notamment la télévision et la presse écrite? Je commence par vous, Monsieur Albert Chebou, directeur de la radio alternative Espace Citoyen.
Comme tous ces médias que vous venez de citer, la radio joue un rôle important dans l'information, la sensibilisation et l'éducation du public. Donc, je pense que dans un contexte comme celui de l'Afrique, je dirais, la radio est vraiment le média le plus populaire, je dirais, en tout cas. Parce qu'aujourd'hui, la radio est même dans les villages les plus reculés. Les gens écoutent la radio. Et on peut parler dans les langues du terroir. Donc, contrairement, par exemple, à la presse écrite, aux journaux qui sont dans nos pays, en grande partie écrit dans la langue française qui n'est pas accessible à tout le monde. Donc la radio est vraiment c'est le média le plus populaire dans nos pays.
En termes d'accessibilité, la portée et puis aussi l'accès à la langue.
Et l'autre chose qui est importante aussi, la radio on peut l'écouter partout. En voyageant sur son chameau, sur son cheval et tout, tu peux écouter la radio. Même quand la femme est en train de faire sa cuisine, en train de travailler, d'aller au marché, elle peut écouter la radio. Donc voilà, donc c'est vraiment un média très populaire qui est accessible à tout le monde. Aujourd'hui, les postes transitoires sont accessibles presque à tout le monde. Et aujourd'hui, on peut écouter la radio sur les téléphones portables. Ouais. Donc du coup, la radio est vraiment le média le plus populaire dans nos pays.
Monsieur Abdrahmane Ousmane, quel complément par rapport, en tout cas aujourd'hui, à l'importance de la radio dans nos vies et son avantage comparatif par rapport aux autres médias?
Le plus grand avantage de la radio, c'est d'abord son accessibilité, ouais, y compris pour des populations réputées pauvres. Si on prend la dernière enquête démographique et des revenus, réalisé par l'Institut national de la statistique du Niger. Cette enquête a fait ressortir que 98% des ménages nigériens ont plus d'un poste de radio à leur sein. Plus d'un, ça veut dire ça peut être 2, 3, 4. Ouais. Le chef de famille a son poste, la mère de famille a son poste, les enfants ont leur poste. Donc, il y a aujourd'hui, la radio, c'est le média le plus accessible. Deuxième élément comparatif, c'est que la radio vient se greffer à la tradition d'oralité dominante dans les sociétés africaines. Donc, nous, dans l'Afrique même traditionnelle et même aujourd'hui dans les villes et les campagnes, les informations, les échanges se font par la tradition de l'oralité. Et donc, la radio, c'est la parole.
Elle vient compléter.
Et donc, ce qui fait que c'est ça qui permet aujourd'hui à même ceux qui ne savent pas lire et écrire, y compris dans les langues nationales, ils peuvent à travers la radio accéder aux informations diffusées en langue, mais tout comme ils peuvent aussi s'exprimer. Et si vous prenez aujourd'hui le taux de couverture radiophonique au Niger, grâce aux radios communautaires notamment, nous avons un taux de couverture radiophonique assez élevé. Et ça fait que vraiment la radio, c'est le média populaire, c'est même, comme diraient certains, le média magique.
Magique. Alors, pour finir cette parenthèse, à l'heure d'Internet, avec l'avènement de nouvelles formes de médias, comment entrevoyez-vous l'avenir de la radio? Va-t-elle pouvoir s'adapter, continuer à vivre ou peut-être disparaître?
La radio s'adapte aujourd'hui, parce que vous avez des radios aujourd'hui qui sont en ligne. Donc, les gens peuvent écouter aussi sur Internet des radios. Donc, du coup, je pense que l'avenir de la radio, à l'heure de l'Internet, devient de plus en plus radieux encore.
Mmh. Voilà. Et vous, M. Abdelrahman Ousmane?
Oui, le média électronique affecte beaucoup plus la presse écrite que la presse, que la radio ou l'audiovisuel de manière générale. Parce que quand même, il faut se dire, au Niger, nous n'avons pas encore un taux de pénétration de l'Internet qui permet de supplanter la radio. Le taux de pénétration d'Internet est faible par rapport à celui de la radio. En plus, c'est que je ne pense pas qu'Internet va affaiblir la radio. Bien au contraire, ça va renforcer la radio. Parce que les radios existantes, elles ne vont pas cesser d'émettre en modulation de fréquence parce que tout simplement, elles peuvent diffuser sur Internet. Non, elles vont diffuser à la fois en modulation de fréquence, mais aussi sur Internet. Donc, ce qui fait que les deux modes de diffusion sont plutôt complémentaires qu'antagoniques.
Voilà. Et permet d'avoir encore beaucoup plus d'audience.
D'audience.
Bien. Alors, ceci étant fait, rentrons dans le vif de notre sujet, à savoir le rôle que la radio est censée jouer de nos jours et avec des contextes souvent difficiles sur le plan sécuritaire. Au sujet du rôle de la radio, nous avons eu un entretien téléphonique avec le directeur d'une radio communautaire. Il s'agit de Guero Idrissa, directeur de la radio communautaire Cynthia Dabala, située dans la région de Tillabéri. Écoutons un extrait de notre entretien.
Nous, notre rôle, c'est de faire comprendre que la paix est un bien commun à nous tous. Et chacun a une parcelle de responsabilité de faire en sorte que cette paix-là règne dans notre zone en particulier. En plus de ça, nous faisons beaucoup de choses par rapport à la mission de radio. Donc, on fait des émissions d'éducation, il y a des émissions de sensibilisation dans d'autres domaines.
Les émissions de distraction, est-ce que vous pensez que ça participe un peu à améliorer la cohésion sociale, la paix?
Bien sûr, parce que au fond, on se cache derrière ces émissions pour pouvoir amener les gens à comprendre beaucoup de choses qui sont très importantes, souvent sans le savoir même. Par exemple, si je prends, on fait une émission que nous appelons le cousinage à plaisanterie. C'est une émission que nous présentons chaque mercredi soir, et c'est une émission qui est très écoutée. Quelle que soit la tension qui existe entre les ethnies, vous allez voir les gens essayer de se taquiner, de gauche à droite, on rit, on fait tout, et ça relaxe, parce que il y a des ethnies qui se sentent souvent stigmatisées, mais avec cette émission-là, ils se sentent toujours concernés, ils se sentent toujours aimés par la communauté et appartenant à cette communauté-là qui, depuis un long moment, on était ensemble. Ouais. Donc, ils vont se sentir aussi toujours appartenir à la famille.
Donc, vous venez d'écouter Idrissa Guero, qui est directeur de la radio communautaire Cynthia Dabala, sur le rôle, en tout cas, qu'il tente de donner, le sens qu'il tente de donner au travail de la radio dans cette localité. Alors, Monsieur Abdourahmane Ousmane, directeur général du Bureau d'études et conseil en Afrique et ancien président du Conseil supérieur de la communication, qu'est-ce qui retient particulièrement votre attention dans l'intervention du directeur de la radio Cynthia?
Ce qui a retenu mon attention, c'est le rôle joué par leur radio dans la cohésion sociale et dans la préservation ou la consolidation de la paix sociale à l'échelle locale. Il a bien dit que, en donnant l'exemple de l'émission sur la parenté à plaisanterie, qui est l'émission populaire ou en tout cas la plus écoutée de leur radio, que nous savons tous que la parenté à plaisanterie vise à consolider les liens et la cohésion entre les différentes communautés qui vivent dans un espace donné. Et donc, ça, la radio est tout à fait dans son rôle social, de renforcer la cohésion. Elle est dans son rôle éducatif. Elle est dans son rôle aussi professionnel. Et donc, je pense que ça, ce sont des initiatives à encourager dans le contexte sécuritaire de notre pays.
Monsieur Albert Chebou, vous avez écouté le directeur de la radio Sincère.
Exactement. En tout cas, je sens qu'il y a, au niveau des animateurs de cette radio, un souci de préserver la paix dans leur environnement. Et puis, ils sont conscients de la responsabilité sociale des médias dans un contexte de conflit. Donc, je retiens ça. Et comme l'a dit Abdraman tout à l'heure, je crois que cette émission sur la parenté à plaisanterie, qui est connue comme un mécanisme, en tout cas, de prévention des conflits, pense que des émissions comme ça peuvent détendre et l'atmosphère très tendue aussi dans un contexte de conflit. Je pense que c'est vraiment ça aussi le rôle d'une radio communautaire dans un contexte de conflit comme la radio d'Abala.
Alors, justement, dans un contexte de conflit, c'est de cela dont il s'agit. Selon vous, quel est le rôle, en tout cas surtout, qui est attendu d'une radio dans un contexte marqué par l'insécurité?
Dans un contexte de conflit comme dans le contexte de la paix, hein, les médias doivent se conformer aux principes fondamentaux de l'éthique, de la déontologie du métier de journaliste. Donc, il faut respecter ces principes fondamentaux d'une bonne pratique journalistique. Maintenant, dans le contexte de conflit, c'est clair que c'est un contexte très sensible parce qu'en ce moment, l'information est manipulée de part et d'autre. Donc, les journalistes doivent faire attention parce que, comme il y a eu des exemples de par le monde, les médias peuvent être des vecteurs de guerre, comme ils peuvent être aussi des vecteurs de paix. Donc, autant être vecteur de paix dans ce contexte-là, il faut bannir les discours de haine, les discours, les actes de violence, etc. Et il ne faut pas aussi relayer, par exemple, les discours des terroristes, etc. Donc, il faut faire très attention. Il faut surtout vraiment respecter, dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information, les règles d'éthique et de déontologie du métier de journaliste.
Bien. Monsieur Abdraman Ousmane, comment vous voyez le rôle d'une radio, en tout cas dans un contexte de sécurité fragile?
Vous savez, les contextes d'insécurité, tout comme le contexte de crise, a un certain nombre de particularités. La première particularité, c'est d'abord d'accroître les besoins en information des citoyens. Les gens, quand il y a une crise, les gens ont besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé, avec beaucoup d'urgence. Je vous donne le cas. Si après l'attaque de Inates ou après l'attaque de Shinagoder, tous les citoyens nigériens veulent savoir ce qui s'est passé. Comment est-ce que c'est arrivé? Et quel est le bilan des affrontements, etc. etc. Donc, ce besoin accru en information met de la pression sur les journalistes. Donc, les journalistes travaillent dans l'urgence en période de crise. Et ce contexte peut faire en sorte que, face à l'urgence, si les journalistes ne font pas attention, si les journalistes ne font pas preuve de professionnalisme, ils peuvent commettre des erreurs. Et ces erreurs peuvent accroître la crise ou la tension. Ça, c'est le point. Mais il n'y a pas aussi que les citoyens... La crise a aussi la particularité de mettre la pression sur les institutions. qui sont en charge justement de la sécurité d'une part, et aussi les institutions qui sont en charge de la régulation.
Ouais.
Parce que si un média diffuse ou publie une information qui peut être préjudiciable à la paix et à la cohésion sociale, par exemple le Conseil supérieur de la communication est amené à prendre des mesures en urgence. Alors que parfois, les procédures ne sont pas adaptées. À ce contexte-là. Tout comme aussi au niveau des forces de défense et de sécurité, quand on pense qu'une information est susceptible de troubler l'ordre public, ça peut les amener à prendre des décisions qui peuvent aussi être en violation des principes fondamentaux en matière de liberté de presse, de liberté d'expression et d'opinion. Donc, face à cette double particularité, je pense que le rôle de la radio et des médias et des journalistes, c'est vraiment de travailler pour satisfaire les droits des citoyens à l'information, y compris dans un contexte de crise.
Ouais.
Les citoyens ont des droits à préserver. Mmh. Et de l'autre côté, aussi assumer leurs responsabilités sociales. En l'occurrence, ici, la charte des journalistes professionnels du Niger dit que la responsabilité des journalistes vis-à-vis du public, donc de leurs concitoyens qui les écoutent, est plus grande que même vis-à-vis de celles de leurs propres employeurs. Donc, vous voyez, c'est pour dire que vraiment, on est la crise où la tension place le journaliste en face de sa responsabilité professionnelle, mais aussi de sa responsabilité sociale. Et d'ailleurs, c'est pourquoi Clémenceau, qui est un homme politique français, disait qu'en période de paix, comme en période de crise, de guerre, en période de guerre même, il dit la liberté s'exerce sous la responsabilité de l'écrivain, donc de celui qui écrit. Et en dehors de cette règle, il dit il n'y a qu'arbitraire et anarchie. Donc vraiment, pour éviter l'arbitraire, pour éviter l'anarchie, les journalistes doivent travailler en ayant un sens très aigu de leur profession et de leur responsabilité pour éviter justement que la situation ne se complique.
Alors quand on fait la radio, jusqu'où est-elle permis d'aller et quelles sont les lignes à ne pas franchir?
C'est là où il faut aller, c'est là où les règles professionnelles autorisent. C'est là où la charte autorise. Là où, parfois, les chartes internes, parce qu'il y a des médias qui ont des chartes internes. Donc, et là où il faut aller, la limite, justement, il faut satisfaire le droit des citoyens à l'information. Ça, c'est un principe cardinal. Maintenant, ce qu'il ne faut pas franchir, c'est qu'il ne faut pas que le travail du journaliste perturbe la paix sociale ou en tout cas envenime la situation. Et ça, c'est une limite à ne pas franchir.
De mon point de vue. Alors, M. Albert Chebou, on sait que souvent, en tout cas, la connaissance même de certaines règles élémentaires ou de certaines règles du journalisme ne sont pas toujours connues par beaucoup d'acteurs qui sont dans les médias, notamment dans les zones reculées, dans certaines radios communautaires. Comment vous analysez cette
dans ces situations? Je pense qu'il faut mettre l'accent sur la formation, surtout des animateurs des radios communautaires.
C'est une vérité.
Et dans le contexte du Niger, souvent les radios communautaires, on sait qu'on dit que c'est des maillons de la démocratie à la base, etc. Mais on oublie souvent ces radios et souvent ils ne sont pas soutenus. Et dans le contexte d'aujourd'hui, ces radios communautaires doivent jouer un rôle important. Et ces radios doivent être vraiment... l'État doit veiller et essayer de soutenir, de former ce qui anime ces radios-là. C'est très important. Sinon, la radio, comme je l'ai dit, comme tout média, il peut être vraiment un vecteur de guerre. Vous avez vu l'exemple au Rwanda avec la radio Mille Collines en 1994. Comment cette radio a participé au génocide. Donc, ça veut dire que la radio, vraiment, peut enflammer, peut mettre de l'huile sur le feu, etc. Donc, pour que la radio, vraiment, joue son rôle de média et qui est sensible au conflit, donc, il faut aussi des animateurs bien formés qui sont conscients des règles d'éthique et de déontologie du métier de journaliste. Parce qu'il faut bannir les discours de haine, des actes de violence. Et il faut éviter aussi que la liberté dont on jouit n'enflamme.
Au sujet toujours de ces radios communautaires, justement, M. Abdourahmane Ousmane, vous avez réalisé une étude sur la régulation des radios communautaires dans l'espace du Liptako-Gourma. Le Liptako-Gourma, faut-il le rappeler, c'est cet espace géographique entre le Niger, le Burkina, le Mali. Rappelez-nous l'objectif dans lequel s'inscrivait cette étude et quels en sont les principaux résultats.
Alors, l'objectif opérationnel de l'étude vise à formuler une approche de régulation des radios communautaires dans le contexte sécuritaire des pays du Liptako-Gourma. De manière tout à fait pratique, il s'agit de renforcer la liberté de la communication audiovisuelle, y compris dans le contexte d'insécurité et de lutte contre le terrorisme. Il s'agit de garantir le droit à l'information des citoyens donc, qui vivent dans cet espace, mais aussi de garantir la sécurité, la liberté pour les radios communautaires qui continuent d'exister malgré un contexte assez difficile, à la fois sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, sur le plan financier et même sur le plan juste humain. Et voilà donc l'objectif de l'étude.
Et qu'est-ce que cette étude révèle ?
Alors, l'étude est partie de l'expérience, du vécu des radios communautaires, mais aussi du vécu de la pratique de régulation par les instances des trois pays sous le secteur des radios communautaires. Ouais. Il est ressorti, premièrement, que dans l'espace du Liptako-Gourma, particulièrement si on prend au Niger l'ouest de la région de Tillabéri, au Burkina Faso, ce qu'on appelle la région du Sahel, et au Mali, le centre, donc Ménaka jusqu'à la région nord du Gao, que l'insécurité affecte le travail des radios communautaires. Certaines radios communautaires ont même été menacées, ont reçu des menaces de mort de la part de groupes terroristes. Trois, que à cause de ces menaces, certaines radios, sinon la plupart des radios communautaires de ces espaces que j'ai évoqués, ont arrêté de traiter les informations relatives à l'insécurité ou aux attaques pour ne pas subir des représailles des groupes terroristes. Donc, c'est une forme de résilience à travers l'autocensure. À travers l'autocensure. Parce que pour eux, pour les responsables de ces radios que j'ai interrogées, ils nous disent le plus important pour eux, c'est de continuer à exister pour au bénéfice de leur communauté.
Même s'il faut grignoter même dans le droit.
Même s'il faut renoncer. Et c'est pourquoi je dis, dans ce cas de figure, l'autocensure est une forme de résilience. Parce que si ils traitent de ces questions, les groupes terroristes peuvent venir ou assassiner. On a vu maintenant, ils commencent à assassiner des enseignants. Bon, on n'est pas encore arrivé au cas des journalistes ou des animateurs des radios communautaires, mais cela n'est pas exclu. Ils peuvent venir peut-être brûler la radio. Ça, c'est un deuxième élément, c'est que les groupes terroristes eux-mêmes ont conscience de ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur des médias. Ils ont conscience de l'importance des médias. Donc, ils sont tentés de vouloir
passer des messages,
par l'intimidation, passer des messages. Mais jusqu'ici, quand même, les radios résistent. Les radios communautaires
à cette tentation.
Résistent à cette intimidation. C'est pas une tentation. S'ils décident de le faire, peut-être ils vont venir, c'est par la contrainte. Mais ils résistent. Et donc, ça, ce sont des aspects assez positifs que l'étude a révélé.
Oui, allez-y, M. Albert, chez vous.
Comme l'a dit Abdourahmane, je crois qu'il y a un auteur qui disait que les médias et le terrorisme forment un couple, donc produit d'un mariage forcé. Ni l'un, ni l'autre ne veut de ce destin commun. Mais ni l'un, ni l'autre ne veut s'en libérer. Parce qu'aujourd'hui, les médias et relaie justement souvent l'horreur et la terreur des actes, bien sûr, terroristes. Et ça, même s'ils ne veulent pas,
Ça participe à une communication.
Il véhicule une des fonctions premières de l'acte terroriste, qui est la publicité.
Ouais.
Donc, du coup, les terroristes ont besoin des médias. Et les médias, souvent aussi, pour des raisons d'information, etc., on essaie de relayer certaines choses, la violence, etc., les actes terroristes, etc. Donc, vous voyez, c'est quand même, comme on dit, c'est un couple qui produit justement ce genre de
comportements.
Mais il faut éviter justement de tomber dans les
dans
discours, justement, de relayer l'idéologie ou les discours des terroristes. Quoi. Donc, il faut s'abstenir justement de relayer ces discours-là.
Alors, qu'en pensez-vous des limites, en tout cas, que représentent les prestations souvent de la radio dans certaines localités voilà.
Mais aujourd'hui, le défi est aussi de protéger les journalistes, de protéger aussi ces radios, comme l'a dit Abdraman. Donc, je pense que les journalistes ne peuvent pas prendre aussi des risques dans ce contexte-là, pour exercer souvent avec une certaine liberté.
Ouais.
Donc ça, c'est vraiment un défi, et malheureusement. Donc il faut parler aussi de la souffrance des gens,
ouais,
surtout des populations.
Qui sont victimes souvent d'actes
oui,
de groupes armés.
Bien sûr. Donc il faut savoir vraiment comment travailler dans ce contexte-là, éviter aussi de prendre des risques. Et dans ces zones-là, beaucoup de radios ont fermé aujourd'hui, comme beaucoup d'écoles ont fermé, des centres de santé ont fermé, etc. Donc, le défi aussi, c'est de savoir se protéger, quoi.
Voilà, nous abordons justement la dernière partie de notre émission à propos des défis qui se présentent au travail de la radio et les pistes de solutions auxquelles il faut penser. Je vous propose à nouveau d'écouter Idriss Aguero, directeur de la radio communautaire Cynthia Dabala, sur les défis auxquels ils font face quotidiennement.
Nous sommes dans une zone où il faut coûte que coûte continuer à sensibiliser, il faut coûte que coûte continuer à dialoguer, à amener les gens à comprendre que sans le dialogue, rien n'est possible. Aussi, j'ai fait comprendre à tous ceux qui sont de mon équipe qu'ils sachent ce qu'ils disent et qu'ils sachent ce qu'il faut diffuser.
Oui.
Surtout, souvent, il y a des partenaires qui amènent des émissions déjà produites et qui nous demandent à produire. Et certaines émissions, souvent, ils les indexent directement. Et eux aussi, quand ils se sentent indexés directement, ils vont donner à la personne une étiquette qui peut lui coûter la vie. Donc, vous voyez, ce sont des complications comme ça. Mais en tout cas, ils ne s'attaquent pas directement à nous, mais on a peur quand même. En plus de peur aussi, nous avons l'obligation de faire notre travail en tant que médias. Vous voyez, c'est un peu difficile. Quoi.
Vous essayez tant bien que mal d'informer les populations, mais en respectant aussi les normes de l'éthique et de la déontologie, en faisant très attention à ne pas rentrer dans le champ d'action de X ou Y.
Voilà, certainement, c'est ce que je voulais dire.
Est-ce que vous avez un souhait ou un appel quelconque?
Moi, je veux toujours encore le dire, surtout à ceux qui sont dans les zones rurales, que les rôles de radio communautaire, il faut que la population sache que nous ne sommes pas là pour les exposer. Parce que nous-mêmes, si nous nous alisons dans certaines situations, on s'expose. On ne veut exposer personne. Nous sommes là juste pour faire notre mission. Donc vous allez voir, quand tu veux évoquer un sujet, les gens vont penser que tu veux les tendre un piège. Donc tu vas beaucoup souffrir avant de trouver quelqu'un qui va te donner ce son ou bien qui va t'accorder l'interview. Donc je lance un appel à l'endroit des populations, que les radios communautaires aussi ont un rôle à jouer. C'est pour cela qu'on les appelle la radio de proximité. Tout ce qui est de problème de la population rurale, nous sommes à côté. Notre rôle, c'est de les écouter, de les apporter et aussi de les amener à s'exprimer autour des questions qui les concernent.
Vous venez d'écouter le directeur de la radio, Cynthia Dabala. M. Abdraman Ousmane, un commentaire?
Oui, je pense qu'il a bien situé les défis auxquels les radios communautaires font face dans le contexte d'insécurité. Mais moi, je tiens à dire que d'abord, le premier défi pour ces radios-là dans la région du Liptako, c'est d'exister.
C'est d'exister.
C'est d'exister et ou de continuer à exister. Ça, si les radios arrivent à relever ces défis, je pense que le reste suivra. Le deuxième défi, c'est aussi de pouvoir quand même travailler en toute liberté, mais aussi dans la sécurité. Parce que c'est important quand même que la sécurité des responsables, des animateurs de radios communautaires soient garantis. Et nous savons bien qui a la responsabilité de garantir la sécurité de tous les citoyens dans un espace, dans l'espace du territoire national. Donc, il faut vraiment que un point particulier soit mis pour garantir la sécurité physique et la sécurité matérielle des radios communautaires partout où elles existent. Et l'autre défi qui est professionnel, et je pense qu'il l'a dit, c'est éviter d'envenimer la situation. Les radios ne doivent pas faire l'apologie de la violence, l'apologie du terrorisme, ou en tout cas la promotion de tout ce qui peut contribuer à renforcer le sentiment d'insécurité. Parce que Albert avait dit quelque chose d'important. Justement, la vocation initiale du terrorisme, c'est de répandre la peur et la frayeur. C'était ça. Oui. Maintenant, à cette vocation initiale est venue se greffer une vocation médiatique. Oui. Les terroristes ont compris que, à travers les médias, ils peuvent amplifier leur objectif, c'est-à-dire qui est celui de faire peur. Parce que quand les médias parlent, traitent des questions relatives au terrorisme, cela contribue quelque part aussi à amplifier le sentiment de peur. Et c'est pourquoi aujourd'hui, tu vois, dès qu'il y a une attaque relayée mondialement par les médias, il y a un certain nombre de pays qui mettent telle ou telle zone rouge et à laquelle ils interdisent leurs citoyens d'ici. Ça, c'est déjà ça l'objectif des terroristes.
Et il y a des mouvements de population aussi.
Absolument.
Souvent.
Et donc, je pense, et ça, c'est un défi. Il ne faut pas que les médias joue consciemment ou inconsciemment ce rôle-là et cette vocation du terrorisme. Et je pense, mais pour ce faire, les radios et les journalistes de manière générale ont besoin d'être renforcés, notamment le renforcement des capacités en matière de formation. Comme moi j'ai l'habitude de le dire, on ne couvre pas un attentat terroriste, une attaque terroriste de la même manière qu'on couvre un match de football.
Ah, ouais.
La responsabilité du journaliste est beaucoup plus grande dans le cas de la couverture d'une attaque terroriste ou d'une situation d'insécurité. Donc, il faut vraiment que les instances de régulation, l'État, à travers le ministère de la Communication, les organisations socio-professionnelles des médias, les partenaires, conjuguent leurs efforts, leurs moyens pour renforcer justement ce sens de responsabilité des journalistes dans le contexte. Et je tiens à dire, la particularité de l'étude, une des particularités de l'étude que j'ai menée, c'est qu'elle a révélé que seulement dans les trois pays, c'est au Niger que les médias, les radios communautaires ne bénéficient pas du fonds d'aide à la presse. Alors qu'au Burkina Faso, il y a une enveloppe au Mali, il y a une enveloppe qui est dégagée spécifique aux radios communautaires. Donc, il faut que cette anomalie soit corrigée, soit à travers l'élargissement du fonds ou à travers une allocation budgétaire spécifique aux radios communautaires en vue de leur permettre de continuer à jouer le rôle, en tout cas pour l'instant tout à fait positif, qu'elles sont en train de jouer surtout, malgré le contexte difficile.
En tout cas, cet appui, ces fonds d'aide, justement, comme objectif, l'un des objectifs, c'est justement le renforcement des capacités.
Absolument.
En plus des capacités matérielles.
Monsieur
Albert Chebou.
Oui, parce que c'est très important. Dans ce contexte, on a écouté tout à l'heure le directeur de la radio d'Abala. Donc, je pense qu'il est conscient, et on l'a dit au début de cette émission, de la responsabilité des médias communautaires dans un contexte de conflit. Et dans ce contexte-là, il faut s'abstenir d'aborder certains sujets qui peuvent compromettre aussi bien l'unité nationale, mais aussi la sécurité de la population, mais aussi des animateurs de la radio communautaire. Donc vraiment, il faut éviter donc vraiment que cette liberté que nous avons ne soit l'alibi de la violence.
Monsieur Abraman, tout à l'heure, vous avez évoqué le fait que, en tout cas, dans les situations de crise sécuritaire, c'est qu'il y a une pression qui est exercée et sur les journalistes et sur les institutions étatiques, sur beaucoup d'acteurs. Alors, pour le journaliste et pour les acteurs de la radio, comment faire face à cette pression sans y faillir?
La première prédisposition, c'est d'abord la prise de conscience qu'on travaille dans un contexte particulier. Une fois que le journaliste arrive à cristalliser dans sa conscience que le contexte appelle de lui une adaptation de sa pratique, c'est déjà ça le point de départ.
Ouais.
Et maintenant, ça va être dans le quotidien. Il faut, je pense, au sein des médias, renforcer les dispositifs d'encadrement. Parce que une des insuffisances que notre étude avait relevées, particulièrement pour le cas des radios communautaires, vous pouvez avoir des bénévoles qui sont tout à fait volontaristes, mais qui n'ont pas les bases nécessaires pour faire un travail professionnel. Et au sein de ces radios, parfois aussi, il n'y a pas d'encadrement. Donc, dans le contexte de crise actuelle, cela est valable aussi bien pour les radios communautaires que pour tous les autres médias. Il faut que le dispositif d'encadrement, notamment par qu'il y ait des réunions de rédaction, qu'il y ait des secrétaires de rédaction qui jouent leur rôle, et de sorte qu'il y ait des filtres, voilà, entre le journaliste qui part collecter les informations sur le terrain, au moment du traitement, qu'il y a quand même un certain nombre de filtres internes qui permettent de tamiser pour ne pas laisser passer les informations, toutes les informations que nous avons tout à qualifier, qui peuvent porter préjudice à la sécurité nationale. Et ça aussi, par exemple, c'est quelque chose que le renforcement des capacités peut permettre. Et donc, il faut même changer, par exemple, la manière de faire les formations. Moi, ça, c'est mon point de vue personnel. Moi, dans le contexte actuel, il faut aller plus faire les formations in situ.
Sur place. Parce que c'est ça qui répond aux réalités.
C'est ça qui permet aux réalités. Ouais. Un journaliste va aller faire une interview, il revient avec les roches, et on va lui dire, bon, écoute, tu vois, dans ce contexte, telle partie, comment tu vas traiter ton interview. Et c'est pratique.
Ouais,
on va, une réunion de rédaction va se tenir, pour le rédacteur en chef qui va dire, qui va déterminer le menu, doit dire, écoutez, en allant, voilà ce qu'il faut éviter et voilà ce qu'il faut plus mettre l'accent. Et tout ça, c'est ça qui va permettre de développer des réflexes professionnels adaptés au contexte de crise. Mais il faut aussi qu'il y ait l'accompagnement de l'État. Je pense que c'est important et je finis avec une expérience que je trouve assez enrichissante du Burkina Faso, où, à l'initiative du CSC, Conseil supérieur de la communication du Burkina, il y a eu 3 rencontres entre les journalistes et les forces de défense et de sécurité. Des ateliers à Wayigouya, à Koudougou et puis dans une autre ville, et pour échanger. Et à l'issue de la dernière rencontre, il y avait une sorte de code de bonne conduite des journalistes et des FDS, des forces de défense et de sécurité qui s'est dégagé.
Et qui permettra à chaque partie...
Et dans ce code de conduite, par exemple, quelles sont les attentes des journalistes vis-à-vis des forces de défense et de sécurité
et
dans le contexte. Et quelles sont les attentes des forces de défense et de sécurité vis-à-vis des journalistes. Donc, c'est comme si on a les bases, les règles du jeu.
Les règles du jeu
ont été définies pour que le travail des les journalistes n'empiètent pas le travail des FDS. Et les FDS aussi n'empiètent pas le travail du journaliste. Et ça, je pense que cette concertation, c'est ça qui permet de mettre en place des nouvelles modalités transactionnelles, si je peux les appeler ainsi, pour faciliter le travail du journaliste, mais aussi pour ne pas entraver le travail des FDS. Ça, c'est une expérience.
C'est une bonne pratique qui mérite
pratique,
d'être répliquée.
C'est les responsables étatiques qui doivent prendre conscience. Ici, le CSC, avec le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, ils peuvent, s'ils sont d'accord, dire, écoutez, nous allons, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme aussi, avoir des échanges entre journalistes et forces de défense et de sécurité.
Monsieur Albert Chebou, l'autre défi aussi pour ces radios qui a été évoqué par le directeur de cette radio qu'on a écouté, c'est que souvent ces radios communautaires reçoivent des productions déjà faites qu'ils doivent relayer, qu'ils doivent diffuser. Et il y a des moments où certaines productions, compte tenu du fait que ça a été produit loin des situations, souvent c'est sans réserve, sur des mots, sur des parties. Comment est-ce qu'aujourd'hui ces défis peuvent s'adapter? Comment ils peuvent s'adapter face à ce genre de défis?
Oui, parce que je pense qu'ils sont conscients de cette situation. Et c'est déjà important.
Ouais.
Parce que quand on sait que si on diffuse telle information, on peut s'attirer la foudre de terroristes ou bien des forces de défense et de sécurité, etc. Déjà, on sait qu'il y a un danger et on peut l'éviter. Donc, il faut s'abstenir, comme je l'ai dit, d'aborder des sujets qui peuvent compromettre vraiment votre propre sécurité. Donc, je pense que le directeur de la radio d'Abala, oui, je sens quand même qu'il est un professionnel. Et ça, je pense qu'il a eu certainement plusieurs formations.
Pour arriver à ce niveau.
Donc, comme l'a dit Abdramane, je pense qu'il faut mettre l'accent sur la formation donc, de ces animateurs de radios communautaires. Parce qu'ils font un travail, exactement le même travail que les journalistes. Même si ils sont des animateurs des radios communautaires, parce que ils font la collecte, le traitement et la diffusion de l'information. Et quand on fait ce travail-là, il faut que ce travail soit conforme aux principes fondamentaux du journalisme. Donc, il faut respecter les règles d'éthique et de déontologie. Mais pour le faire, il faut être formé. Il faut savoir quelles sont ces règles d'éthique et de déontologie et comment aussi travailler dans un contexte de conflit. Oui. Donc la formation est importante et comme l'a dit Abdramane aussi, l'appui de l'État pour ces radios-là s'avère vraiment d'une grande utilité, surtout dans le contexte d'aujourd'hui.
Oui. Sur, Abdramane, oui.
Oui, oui, sur ce dernier point, sur la diffusion, oui, il faut, vous savez, la loi sur la communication audiovisuelle est très claire. Oui. En matière donc de radio comme de télévision, oui, la responsabilité incombe au diffuseur. Oui. Donc, celui qui amène l'élément pré-produit, oui, n'est pas responsable. Tout, oui, au plus, il peut être complice.
Oui.
Mais c'est lui qui diffuse.
Qui...
Oui. Donc, si l'élément pré-produit peut engager leur responsabilité pénale ou civile, oui, je pense que la décision la plus rationnelle, c'est de ne pas diffuser, même si ça va provoquer un manque à gagner sur le plan financier.
Mais ils peuvent aussi peut-être s'entendre avec leur partenaire
sur des choses à élaguer.
Certains, voilà, certains mots qui peuvent les attirer des ennuis. Quoi. Ouais.
Merci beaucoup à tous. Et c'est ici que prend fin le forum d'aujourd'hui sur le rôle attendu de la radio dans un contexte d'insécurité. Nous avons vu, en tout cas avec nos invités, que la radio est d'une importance capitale dans ce sens que c'est un média populaire, l'avaient noté nos invités, accessible non seulement en termes de portée, accessible en termes d'accès physique, matériel, et accessible aussi notamment par les langues qui sont utilisées. Nous avons vu que les acteurs qui travaillent dans les radios, en tout cas sous des contextes difficiles, des contextes de sécurité fragiles, sont confrontés à d'énormes défis. Nos invités ont suggéré qu'il y ait en tout cas une conjugaison des efforts de la part de l'État, de la part des partenaires et de la part, en tout cas, de tous ceux qui ont quelque chose à voir avec ces médias pour renforcer la capacité des gens qui travaillent sous ces contextes d'insécurité. La formation, en tout cas, c'est le maître mot sur lequel nous terminons aujourd'hui pour pouvoir bien faire le travail de la radio, le travail du journaliste dans des contextes difficiles. Merci à tous. Nous étions en compagnie de M. Abdramane Ousmane, qui est le directeur général du Bureau d'études et conseil en Afrique. Il est ancien président du Conseil supérieur de la communication. Voilà. Et Albert Cheibou, directeur de la radio alternative Espace Citoyen. Je suis Alassane Kouzi Mahamadou pour la présentation de cette émission et Issa Lawali a assuré le volet technique. Merci.